There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial du FC Stream Team. Spécial non pas parce qu'on est vendredi, puisque le vendredi, vous le savez, c'est le jour habituel du FC Stream Team, mais parce qu'on est passé en quotidienne tout au long de cette Ligue des Nations. Et comme les Français ont eu la bonne idée de gagner contre la Belgique, on a plein de choses à vous raconter. Ça aurait peut-être été un peu long, Martin, si on avait dû attendre jusqu'à la troisième place. Et ce match dimanche après-midi, à la place, on aura une super finale entre France et l'Espagne. Donc on va un peu en parler, mais on va surtout aussi parler de ce qui s'est passé hier soir, jeudi soir. Victoire des Bleus, 3-2, victoire renversante. Et Martin, si je ne m'abuse, tu es à Turin dans un stade, dis-moi tout.
Dans un stade qui baigne dans son jus, le stade olympique de Turin, que je préfère au Juventus Stadium personnellement, parce qu'il y a une plus grosse charge émotionnelle ici. Puis moi, j'aime bien les vieux stades, Maxime, je suis un peu comme toi. Les Bleus qui se sont entraînés ici, donc l'entraînement s'est arrêté, c'est terminé il y a une vingtaine de minutes. C'était juste les remplaçants qui faisaient voilà, des petites courses, une petite opposition. Non, mais il n'y a même pas eu de petite opposition, je dis n'importe quoi, des taureaux, des exercices devant le but. Rien de bien exceptionnel, mais on a eu les conférences de presse de Lucas Hernandez et d'Antoine Griezmann. Bref, voilà une belle journée qu'on termine ici à Turin, parce que demain, on part du côté de Milan pour la finale de la Ligue des Nations.
Pour un autre très beau stade, d'ailleurs, Turin. Mais Turin a des problèmes avec ses stades. Hein. Stadio delle Alpi, tout ça, ils ont du mal à faire des stades qui tiennent la route. Et si vous voulez un indice de l'ancienneté de ce stade-là, il s'appelait auparavant Stade Benito Mussolini. Donc, ça vous dit un peu la charge historique qu'il y a dans ce coin-là.
Encore plus vieux que toi, ce stade, Maxime.
Encore plus vieux que moi, oui, parce que je ne suis pas un contemporain de Benito Mussolini. Tu vois, comme quoi, hein.
De quoi on parle aujourd'hui, Maxime?
Eh ben, on va parler de trois sujets, comme d'habitude, mais évidemment, ça va tourner autour des Bleus. On va parler du match d'hier. On va démarrer et on va essayer de se prolonger, de prolonger cette fantastique deuxième mi-temps et se demander si cette deuxième mi-temps est une base de construction pour la suite. En gros, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé, mais est-ce que cette seconde période peut changer l'ADN des Bleus et faire découvrir autre chose. On en parlera, puisqu'en plus, c'est l'Espagne qui arrive dimanche. On parlera ensuite d'Antoine Griezmann, qui était en conférence de presse, tu l'as dit, et qui va célébrer sa 100e sélection. Sans sélection, ce n'est pas rien. On essaiera un peu de définir sa place dans la galaxie de l'équipe de France. Et enfin, on parlera des joueurs qui potentiellement peuvent jouer et qui peut-être le mériteraient de jouer contre l'Espagne. On va parler d'un certain Tchouaméni, qui à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France, ça ne fait pas très longtemps, mais c'est plutôt bien.
On démarre avec quoi, Maxime? Allez, c'est toi le chef.
Bah, on va démarrer, non, mais on va démarrer sur le match d'hier. Comme ça, on va faire la logique.
Bien sûr, bien sûr.
Pour repartir vers demain.
Maxime, il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. Et c'est pour ça qu'on aime tant. C'est pour ça qu'on aime tant, ouais. Et c'est pour ça que c'est le meilleur.
Le meilleur d'entre nous, le dernier qui a dit ça,
ouais,
c'est
pas bien terminé pour lui. Le meilleur d'entre nous deux, quoi. Bon, c'est pas non plus la folie. Hein. On démarre avec le match d'hier, du coup, Max?
Ouais, alors le match d'hier, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Première mi-temps catastrophique, enfin catastrophique, on exagère. Il y a 20 premières minutes qui sont plutôt pas mal, où l'équipe de France fait jeu égal face à la Belgique, et puis après, elle recule. Et cette équipe qui recule, l'équipe de France, bah, on l'avait déjà vu faire des choses bien, mais hier, ça ne s'est pas bien passé puisqu'elle a pris deux buts en fin de première période. Les joueurs sont passés au vestiaire, ça a changé un peu la physionomie du match, même beaucoup, parce qu'ils ont commencé à jouer plus haut et aller presser les Belges. Alors la question, elle est simple. Est-ce que, selon toi, Martin, ce qu'on a vu en seconde période est le début d'une nouvelle piste de réflexion et d'une nouvelle équipe de France qui est en vue de la Coupe du monde au Qatar et en vue de la finale dimanche?
Et pour moi, cette seconde période, c'est l'équipe de France, en fait. Comme la première période est l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on est sur un prolongement de ce qui se passe avec ces Bleus-là depuis des années. C'est-à-dire une équipe, je pense qu'il faut juste l'admettre, en fait. C'est une équipe qui ne maîtrise, qui peut maîtriser, mais qui maîtrise rarement, qui joue sur les exploits de ses meilleurs joueurs, qui font partie des meilleurs joueurs du monde, ce qui tombe plutôt bien. Parce que quand on n'a pas une cohérence et une maîtrise collective, quand on a les meilleures individualités de la planète, eh ben, ça peut nous sauver, comme ça a sauvé hier l'équipe de France face à la Belgique. Donc finalement, ce match-là, on l'a déjà vu. Antoine Griezmann a tracé tout à l'heure là, le parallèle entre ce match-là et le match face à l'Argentine à la Coupe du Monde. On en avait parlé dans le podcast jeudi, on n'a pas attendu Antoine Griezmann, mais il est d'accord avec nous. Il dit que cette performance, cette victoire un peu décousue, où finalement rien ne s'est passé comme prévu, où il y a eu une sorte de renversement absolument hallucinant, bah oui, ça peut être le démarrage de quelque chose. Ça avait été le démarrage de quelque chose face à l'Argentine, ça peut l'être face à la Belgique, mais on peut se souvenir aussi de France-Suisse. France-Suisse, c'est la même chose, c'est un match qui part complètement en sucette, c'est un match où la France ne maîtrise plus rien, et c'est des matchs, des sortes de courses effrénées, voilà, où il se passe des milliards de choses, donc c'est spectaculaire, mais c'est dur de construire là-dessus, effectivement, c'est très très dur de construire là-dessus, mais pour moi, c'est l'ADN de cette équipe de France.
Alors, comme tu le dis, l'équipe de France a souvent joué au chat et la souris dans ses matchs, plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs, parce qu'on a toujours cette impression de froideur de l'équipe de France, même si j'estime que ses meilleurs matchs, c'est, alors, peut-être pas dans l'émotion, mais la Belgique et l'Allemagne, où on est une équipe qui est forte, qui est capable de reculer et d'attendre. Je reviens avec cette histoire d'Allemagne du 14 juin dernier. C'est une équipe qui recule et qui attend. C'est le chat et la souris. C'est-à-dire, bah, vous venez, viens, 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 on t'attend et ça ne se passe rien. Maintenant, la question est de savoir si cette équipe-là, à ce moment-là de son histoire, est finalement capable de faire ça. Parce que prenez ce que Didier Deschamps dit hier. Il explique après la 25e, 30e minute, son équipe recule trop. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été un problème parce qu'il y a une solidité qui était là. Alors hier, il y a aussi le fait que c'est un système nouveau, le 3-4-3, avec des joueurs qui ne se connaissent pas bien en défense parce qu'ils ne jouent pas d'habitude, soit ensemble, soit au même poste. Donc, il y a une impression de fragilité. L'équipe de France est redevenue, d'une certaine manière, elle-même, au moins, elle a repris le sens de son histoire, le cours de son histoire, quand elle a commencé à jouer plus haut et à presser. Il y a quelque chose du système, mais le système, ils ne l'ont pas maîtrisé en une mi-temps. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'à la mi-temps, ils se sont dit on va faire les choses. Simplement, ils se l'ont dit et je pense que c'est aussi psychologique et c'est mental. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut décider d'y aller. Et cette équipe, au bord du précipice, s'est dit on va y aller, il faut jouer plus haut. Et c'est une piste, tout simplement, parce que, en fait, je ne vois pas ce qui serait contradictoire à jouer plus haut contre les petites équipes. Parce qu'on entend tout le temps des gens qui disent ouais, mais contre les petites équipes, c'est compliqué, ils nous attendent, etc. Ah oui, mais si vous allez leur mettre la pression, vous leur mettez trois morts de faim comme Benzema, Griezmann et Mbappé au moment de la relance, je pense qu'ils vont soit balancer, soit faire des conneries. Donc en gros, il y a quelque chose sur lequel il faut appuyer. Évidemment, on ne peut pas faire ça pendant un match 90 minutes tout le temps pressé. Mais n'empêche que c'est peut-être quelque chose qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller chercher les adversaires plus haut et arrêter d'attendre parce que ça ne correspond peut-être plus aux physionomies des joueurs, à leur appétit. Peut-être qu'il leur faut autre chose et peut-être que la solution est là, tout simplement.
Oui, tu as raison. C'est l'arrivée de Benzema qui a changé aussi un petit peu tout ça. Le fait aussi qu'on ait un socle défensif un peu moins serein. Le fait que les défenseurs derrière, ils apportent un peu moins de garantie. Hein. L'image d'Avarane qui est un peu plus fébrile. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne piste. Après, ce qui est rassurant, et moi, ce que j'ai aimé dans le match d'hier, c'est qu'on a retrouvé l'orgueil des champions aussi. On a retrouvé cette équipe qui se bouge les fesses. Et c'est ce qui nous a manqué un petit peu lors de l'Euro. On remarque que c'est quand même une équipe formée de grands joueurs. Et je pense que ce match face à la Belgique, de ce point de vue-là aussi, les fondateurs. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de fierté, ils ont parlé d'orgueil. Voilà, on a retrouvé, c'est ce que dit Paul Pogba après le match, on est la France. Et jeudi, ils ont montré qu'ils étaient encore la France. Et c'est peut-être ça le plus important pour moi, au-delà des systèmes, etc.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, le système, pour moi, c'est un élément évident. D'ailleurs, le troisième but dit quelque chose de ça. C'est-à-dire que ça part d'un piston droit vers un piston gauche, donc c'est pas un hasard non plus. Mais n'empêche que s'il n'y a pas l'état d'esprit, s'il n'y a pas cette prise de conscience de dire faut peut-être qu'on change là-dessus, ça ne marchera pas. Et en l'occurrence, comme tu le dis, défensivement, aujourd'hui, c'est moins bon. Ça redeviendra peut-être mieux au bout d'un moment, mais pour l'instant, c'est moins bon. Et peut-être que la meilleure façon de défendre et de sécuriser cette défense, cette arrière-garde, c'est d'aller chercher les équipes plus haut. Mais ça tient aussi à l'envie qu'a Mbappé qui s'est remis à l'endroit, l'envie qu'il va avoir Benzema et évidemment l'envie de Griezmann, j'en parle pas, mais voilà, ça part de là. Et peut-être que la solution, justement, c'est d'aller vers l'avant. Il faudra voir contre l'Espagne, ça sera intéressant parce que contre l'Espagne, ça va être encore un autre problème où, a priori, il y a des chances que les Bleus aient moins le ballon. Mais ils n'auraient pas intérêt à rester dans leur camp parce que, encore une fois, les mêmes problèmes, les mêmes causes donneraient les mêmes conséquences, à mon avis.
L'Espagne, Maxime, justement, Antoine Griezmann fêtera sa centième sélection face à l'Espagne. Et on a trouvé que c'était un bon prétexte pour juger un petit peu de la place d'Antoine Griezmann dans l'histoire de l'équipe de France. Avec Maxime, on a eu un petit débat sur WhatsApp. Je ne sais pas si on est d'accord d'ailleurs, parce que tu ne m'as pas donné, toi, ton résultat. Où se situe Antoine Griezmann dans l'histoire de l'équipe de France, s'il fallait le classer parmi les grands joueurs? Je vais peut-être démarrer, parce qu'en plus, tu connais, je te l'ai dit, j'aurais pas dû, tu vois, j'aurais dû te le cacher jusqu'au bout. Moi, je placerai Antoine Griezmann derrière des Platoches, des Zidane et des Henry, parce que Platini et Zidane incarnaient quelque chose que n'incarne pas encore Antoine Griezmann, qui dépasse même l'équipe de France. derrière un Thierry Henry, parce qu'il y a aussi un palmarès, champion d'Europe, champion du monde, et puis Henry reste aujourd'hui le meilleur buteur de cette équipe de France. En revanche, je le mets juste derrière, parce que c'est lui qui, pour moi, incarne la deuxième meilleure période de l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire, voilà, ils sont champions du monde, ils ont fait une finale de l'Euro, il est gigantesque à l'Euro. Je pense qu'il n'y a personne, aucun bleu, si ce n'est Platini en 84 et peut-être Zidane aussi en 2000, qui a fait une compétition internationale aussi aboutie qu'Antoine Griezmann en 2016. Donc ça, c'est important. Puis en 2014, ça reste le patron des champions du monde. Donc moi, je le place là. Il y a beaucoup de malentendus autour de Griezmann. On en a beaucoup parlé ici. Peut-être que son coefficient de spectacularité est moins élevé que les trois que je mets devant lui. Il terminera meilleur buteur des Bleus. Il va dépasser Henry. Il lui reste 10 buts. Il sera aussi meilleur passeur des Bleus. Ça aussi, ça dit quelque chose. Donc, je ne vois pas comment on peut le mettre plus bas, moi, personnellement.
Ça, déjà, tu vois. Alors, je mets un peu plus bas. On est d'accord sur le constat. Il y a deux extraterrestres qui s'appellent Zidane et Platini. Platini ou Zidane, selon l'ordre qui est le vôtre. Il y a Thierry Henry, en effet, que je mets encore devant. Tu l'as dit pour le palmarès. De toute façon, en gros, si tu compares aujourd'hui Thierry Henry et Griezmann, ils ont à peu près le même profil, mais Thierry Henry est un peu en avance sur le palmarès et sur les buts et un peu plus de sélection, mais ça ne va pas tarder. Donc, il n'y a pas de raison de mettre Thierry Henry derrière Griezmann, même si Thierry Henry, finalement, n'a jamais été le vrai fer de lance de l'équipe de France quand elle gagnait. Parce qu'il était très jeune en 98-2000. Et en 2006, il y a quand même Zidane, même s'il a pris une autre dimension. Et quand il est devenu le fer de lance de l'équipe de France, malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. Donc voilà, s'il y a ce petit bémol. Je mettrais quand même déjà dans les quatre, je mettrais Raymond Coppa aussi. Parce que Raymond Coppa, alors évidemment, le palmarès avec l'équipe de France, c'est le néant entre
les deux. C'était mon cinquième, pour être tout à fait franc.
Voilà. Parce que, il n'a rien gagné, mais n'empêche que c'est un pionnier. Et à l'époque, faire une troisième place de Coupe du Monde avec l'équipe de France, c'était pas rien. Et donc, rien que pour ça, Ballon d'Or aussi, même si c'est pas seulement lié à l'équipe de France, je mettrais encore Raymond Coppa devant. Moi, pour moi, Antoine Griezmann, c'est entre 5 et 10. Ouais. C'est entre 5 et 10. Je le mets juste derrière cette cohorte-là. Pourquoi ? Parce que 100e sélection bientôt, il devient le 9e centenaire, donc ça, c'est remarquable. 41 buts comme Platini, c'est remarquable. Vice-champion d'Europe, meilleur buteur de l'Euro, c'est remarquable. Champion du monde, c'est remarquable. Voilà. Maintenant, je le mets autour de cette cohorte, j'allais dire, c'est la garde défensive de l'équipe de France, c'est-à-dire Didier Deschamps, son sélectionneur, qui pour moi a toujours un petit coup d'avance pour ce qu'il représente, pas pour son nombre de buts, évidemment. Lilian Thuram aussi. Et j'ai une petite hésitation avec un Marcel Desailly, pour être tout à fait honnête. Voilà. Je les mets à peu près à la hauteur. Et finalement, j'aime bien le mettre à cette hauteur-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que même si je pense qu'il est destiné à aller plus haut, si ça se passe quand même bien au Qatar, il ne faut pas que ça se crache. Parce que je trouve que finalement, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a cité juste devant des joueurs offensifs, ultra-offensifs, qui sont des légendes du jeu devant. Et là, je donne des légendes de l'équipe de France derrière. Et puis finalement, Griezmann, je trouve qu'il est bien à cette place-là parce qu'il fait le lien entre les deux. Parce que Griezmann, c'est un attaquant, évidemment, 41 buts. Mais on le dit suffisamment là, c'est l'âme de l'équipe de France. C'est-à-dire, c'est le relais de Deschamps sur le terrain. C'est le type qui, contre la Belgique, il a joué, je crois, son 56e match de suite en équipe de France. C'est le premier joueur qu'on met sur le terrain. Et Didier Deschamps ne se pose jamais la question. Il ne le fait jamais se reposer. Alors qu'il y a cette dépense d'énergie, alors que c'est un joueur qui montre le chemin. Voilà, je le répète, je le maintiens, l'équipe de France de 2018, c'est celle de Griezmann. C'est l'âme de cette équipe, son jeu, l'école Atlético, tout ça. Donc, j'aime bien l'idée aujourd'hui de le mettre là. La question qu'on pourrait se poser, alors là, c'est vraiment de la fiction, c'est jusqu'à où il pourrait aller. Je pense que la troisième place serait pas mal parce que même si à l'arrivée, le palmarès est au-dessus des deux premiers aujourd'hui,
Il faudrait une deuxième Coupe du Monde, quoi. Il faudrait une deuxième Coupe du Monde qui devienne meilleur buteur de l'histoire des Bleus.
Ouais.
Meilleur buteur de l'histoire des Bleus, c'est une question de temps. Il nous l'a dit tout à l'heure en conférence de presse. Il a dit, moi, ce n'est pas une obsession. Je vais y aller mollo. Il reste 10 buts. C'est très long et très court à la fois. Ça peut arriver vite. Mais il n'en fait pas du tout un objectif comme le faisait Giroud, qui, lui, pour le coup, ne vit que par le but. Ouais. Tandis que Griezmann, il vit, lui, par le collectif. Et c'est en ça que parfois, il y a un malentendu. Mmh. C'est que Griezmann, il a ça aussi en plus par rapport à Henry, quand même. Mmh. C'est qu'il a ce sens du collectif. C'est le maître à jouer. C'est le chef d'orchestre de cette équipe de France. C'est la génération Griezmann. C'est pour ça que moi, je le mets à ce niveau-là, mais j'entends tes arguments, évidemment.
Mais il a les défauts de ses qualités, finalement. Et je pense que s'il était plus égoïste, il ne serait sûrement pas le joueur qu'il est, tout simplement. Donc voilà, il faut le prendre tel qu'il est, et c'est plutôt pas mal. Ça fera 100 sélections 41 buts, peut-être un nouveau titre. Alors évidemment, ce n'est que la Ligue des Nations, mais c'est quand même remarquable. Et il faut le rappeler, l'Euro 2016, rien que ça, c'est 6 buts. Personne n'avait fait ça depuis Michel Platini en 84, avec plus de matchs, certes, mais c'est quand même remarquable. Et oui, je pense qu'un top 3 à la fin, c'est imaginable. Mais la Ligue des Nations le rapprochera un peu plus. Et oui, pourquoi pas une deuxième Coupe du Monde, ce serait pas mal.
France-Espagne le rapprochera peut-être, du coup, la finale de cette Ligue des Nations. On voulait se poser la question avec Maxime aussi, à qui jouerait ce match tout simplement en équipe de France, la demi-finale face à la Belgique a installé un système et on voit mal Didier Deschamps faire autre chose face à l'Espagne, même si l'opposition sera complètement différente. Mais qui pour animer ce système? Est-ce que Didier Deschamps va changer en défense, en milieu, en attaque? Une certitude, il ne touchera pas les trois de devant. Maxime, est-ce qu'il pourrait y avoir, selon toi, des retouches malgré tout?
Alors, c'est une finale et une demi-finale, et quand on regarde la logique de Didier Deschamps, il est rare que ça bouge. Quand ça gagne, ça ne bouge pas. Après, on n'est pas dans une compétition au long terme, on n'est pas sur une compétition qui a duré depuis un mois avec des certitudes. Voilà. Moi, si je devais faire une retouche, j'en tenterais une.
On en a un peu parlé
à l'intro. C'est de faire jouer Tchouaméni, tout simplement, parce que Tchouaméni est apparu dans la Galaxie équipe de France il y a un mois. Et ça ne dit pas de ce qui va être sur le terrain, mais moi, j'ai tout de suite été marqué. Je l'ai dit à Martin après la première conférence de presse qu'il a donnée. Il était comme chez lui, tout simplement. On a senti une maturité, une tranquillité déteignait, on va dire, sur tout l'auditoire et qui n'était pas forcément ce qu'on a classiquement quand on voit un nouveau joueur en équipe de France. Voilà. Alors, encore une fois, ce qui sort de sa bouche ne dit pas ce qu'il a dans les pieds. Il n'empêche que après j'ai des contre-exemples. Hein. Mais bon, quand vous avez ça et que derrière sur le terrain vous le voyez faire ses premiers pas et que ça se passe plutôt pas mal, vous avez envie de en voir un peu plus. Et quand un joueur comme Adrien Rabiot est assez quelconque contre la Belgique, vous vous dites que ça vaut peut-être le coup d'essayer, parce que moi, je le répète encore une fois, c'est beaucoup une question d'état d'esprit. On va parler du système, on va parler des complémentarités, en effet. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas essayé, donc on ne sait pas vraiment. Et moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, c'est plutôt pas mal. Donc, j'aimerais bien le voir à Milan titulaire contre l'Espagne.
Moi, j'ai une limite à ce raisonnement. C'est vrai que c'est la complémentarité avec Pogba. Ce sont deux joueurs qui se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire qui prennent beaucoup de risques, notamment dans la relance. Ce serait risqué. Déjà, tu n'as que deux milieux. Face à l'Espagne qui va présenter une supériorité dans l'entrejeu. En plus, ce sont des joueurs qui aiment le ballon, qui aiment avoir le ballon. Est-ce que Tchouaméni et Pogba sont les deux mieux placés pour courir après celui-ci? Je ne sais pas. Adrien Rabiot, en équipe de France, c'est quand même pas mal. Alors oui, il a été quelconque, il a été neutre face à la Belgique. Et quand il y a eu la montée en puissance de l'équipe de France, lui, il est resté à son niveau de la première période. Donc, effectivement, ça pose un problème. Est-ce que pour autant, il faut tout de suite mettre Tchouaméni? Si tu regardes que les prestations de Tchouaméni, j'ai envie de dire fonce. Didier, fonce. Parce qu'effectivement, il apporte du culot, il apporte de la projection offensive. Souvenez-vous de sa frappe détournée par Courtois. Et dans la sortie de balle, c'est là où il sera intéressant face à l'Espagne, il est hyper efficace. Mais il prend des risques. Voilà. C'est un peu comme Pogba. Donc, est-ce qu'il faut mettre les deux frères jumeaux ensemble? Après tout, c'est que de la Ligue des Nations, donc le risque il est aussi amorti par la compétition. Tchouaméni, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on assiste peut-être là à la naissance de quelque chose. Sa prise de pouvoir, elle viendra. Alors, il faut toujours se méfier, parce qu'avec Camavinga, on disait à peu près la même chose. Donc, il faut toujours se méfier. Mais c'est sûr qu'il a quelque chose de différent, ce gamin-là. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt, dans un système à deux milieux? C'est mon interrogation. Ce qui est sûr, c'est que la solution, en tout cas, elle est hyper tentante.
Après, le problème avec ce système à 2 millions, entre guillemets, c'est que s'il fonctionne, Didier Deschamps va tenter. Encore une fois, il faut le rappeler que le jouer à 3 derrière et 5, c'est une idée qu'il a depuis plus d'un an, qu'il a tenté, qu'il ne marchait pas, qui finalement, a priori, a donné des premiers signes encourageants. Le problème, c'est que si tu joues avec deux milieux, globalement, les deux milieux, tu les connais, ils s'appellent Pogba et Kanté. Voilà.
Exactement.
C'est-à-dire que tu ne laisseras jamais de place à Tchouaméni et que tu lui donneras pas forcément sa chance la prochaine fois, parce qu'a priori Kanté va finir par revenir. Donc moi, vraiment, je tenterai le coup sur la forme, sur l'état d'esprit. Encore une fois, je le répète, c'est une équipe de France qui a brillé par son état d'esprit en seconde période face à la Belgique, et j'ai envie qu'on récompense un peu ça. Alors, non pas que Rabiot n'a pas été dans l'esprit, mais Rabiot, comme tu l'as dit, était neutre, voire quelconque. Et à un moment, quand on voit Tchouaméni qui prend des risques, qui y va, j'ai envie de me dire que allons-y, quand on construit une équipe, tu as raison, tu as deux milieux axiaux, mais tu as quand même les deux sur les côtés, c'est des latéraux, c'est des défenseurs, tu as quand même cinq défenseurs. Donc, à un moment, tu peux te permettre un petit déséquilibre, surtout quand devant, en plus, tu as quelqu'un qui s'appelle comme Antoine Griezmann. Donc, encore une fois, ça peut déséquilibrer, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle et je pense que c'est peut-être pas encore le sens de l'histoire, mais ça mérite d'être tenté, d'être vu et de tout, surtout un peu plus que ce qu'on a vu sur la fin du match face à la Belgique.
Bon, bah Maxime, je crois qu'on a fait le tour. Tchouaméni ou Rabiot, on verra ça dimanche.
Mais après tout, a priori, il ne faut quand même pas s'attendre à beaucoup de changements. Si vous voulez des changements, ce sera au maximum un, hormis coup dur, d'autant que Dean s'est blessé et a quitté le rassemblement. Donc, a priori, ce sera un changement et pas plus.
C'est vrai, parce que Dean, c'était peut-être le plus apte à rentrer dans ce 11-là. Mais ouais, a priori, il y aura très peu de changements. Direction Milan, dès demain, San Siro, avec les conférences de presse avant match. Nouvelle Stream Team, ce sera là encore en fin d'après-midi. Ben, merci beaucoup, Maxime.
Ouais, et j'ai envie de te dire un truc pour terminer. Tu réfléchiras à ça sur le voyage, le trajet qui t'amènera de Turin à Milan.
Vas-y, je serai le pire.
Ouais, je pense que je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait parce que voilà. Milan, c'est long.
Oh là 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 là. Oh,
voilà.
Oh putain.
Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est la petite petit bonbon.
Les pauvres. Ouais. Les pauvres. Bon, bah, en tout cas, oui, à demain pour en direct de Milan. Merci Maxime. Je crois que tu vas au cinéma ce soir, donc bon cinéma.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce que tu vas voir?
Sûrement les War James Bond pour être très classique.
Un grand classique. Merci à Seb.
Merci Seb.
Je ne sais pas ce qu'il fait ce soir et je crois que je ne préfère pas savoir. Merci beaucoup Seb pour la Real. Et puis on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Bye bye.
Salut.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.